Donc, ce matin, je n'ai que 3 pages, comme mon voisin me l'a fait remarquer. Et j'espère vraiment que la pensée de Dieu pourra être communiquée à plusieurs. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Merdi, j'ai 22 ans, 23 dans 19 jours. Et ce matin, je pense avoir reçu quelque chose de particulier de la part du Seigneur pour son Église. Je vais vous les partager en peu de mots et j'espère que, au-dessus de tout ce que je vais dire, qu'il y aura un réel engagement de la part de chacun pour pouvoir pratiquer par la suite. Amen. Donc, l'année dernière, lorsque j'ai apporté la parole, on a parlé principalement de la personne du Saint-Esprit et la conclusion de cet enseignement était de le demander. Parce que c'est l'une de manières l'une des manières par lesquelles on reçoit le Saint-Esprit, c'est en le demandant. Et aujourd'hui, ça va être plus ou moins une suite. Donc, pour ceux qui n'étaient pas là, ne vous inquiétez pas. J'ai appris auprès des bonnes personnes à devenir un bon enseignant. Donc, je vais faire un petit récap sans que vous ne vous perdiez. Alors, ce matin, je pense parler à une église qui a déjà le Saint-Esprit. Amen. Je suis convaincue dans mon cœur que ici, au milieu de nous, le Saint-Esprit vit, le Saint-Esprit habite. Alors, je viens parler particulièrement à ceux qui ont le Saint-Esprit et ceux qui pensent ou ceux qui ne l'ont pas, commenceront par demander et puis enjamberont les pas. Alors, pour ce matin, le thème que nous allons partager, c'est Garde le bon dépôt. Garde le bon dépôt est le thème que nous allons partager dans les prochaines minutes. Et c'est principalement un encouragement, c'est un réconfort, c'est une manière pour moi d'essayer de motiver quelqu'un ce matin en lui disant préserve et garde le bon dépôt. Donc, je vais m'attarder sur 2 Timothée chapitre 1er, le verset 14. C'est un verset, une phrase, et dans cette phrase, on va avoir 3 parties principalement que nous aurons à aborder ici. Alors la Bible nous dit, 2 Timothée chapitre 1er, le verset 14, la Bible nous dit, Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Alors puisqu'on parle des dépôts, on peut se poser premièrement la question de savoir, c'est quoi ce dépôt? C'est quoi les dépôts que nous sommes censés garder? C'est quoi cette chose? De quoi est constitué ce dépôt? Alors, je vais donner une première définition strictement biblique tirée de ces versets et une deuxième définition qui sera beaucoup plus large. Et vous allez me dire si vous êtes d'accord ou pas. Amen. Je préfère toujours qu'on interagisse parce que au moins je sais que je vous garde réveillé. Alors, la première définition biblique, je la trouve dans ce même verset, dans la version Parole français courant. Si on peut passer. La Bible nous dit, garde les bonnes instructions qui t'ont été confiées avec l'aide du Saint-Esprit qui habite en nous. Donc on comprend déjà que par cette version, que le bon dépôt dont parle la version Louis II 19, c'est en fait les instructions qui nous ont été confiées. Dès l'instant où nous nous tournons vers Christ, dès l'instant où nous croyons en sa parole, dès l'instant où nous devenons disciples et que nous recevons le Saint-Esprit, il y a des instructions que nous avons aussi reçues par la même occasion. Alors, Paul, qui est le père dans la foi de Timothée, s'adresse à son fils pour lui dire, préserve, garde les bonnes instructions qui t'ont été confiées avec l'aide du Saint-Esprit qui habite en nous. Et comme je disais tout à l'heure, on ne peut pas pleinement vivre la vie après avoir accepté Jésus si on ne met pas pleinement en pratique les instructions que Jésus nous a laissées. C'est très compliqué de dire que vous êtes, par exemple, scout sans savoir comment est-ce que le scout marche, sans avoir le sac du scout, sans avoir tout l'équipement qui va avec. Alors, lorsqu'on vient dans la foi, il y a des instructions claires que Jésus nous donne dans sa parole et nous devons préserver cela. Et c'est ainsi que, en préservant les instructions de Dieu en nous, nous vivons la vie de Dieu. Nous vivons la vie de Dieu, la vie de Dieu sur terre. Et cette vie de Dieu est appelée dans plusieurs versions hébraïques, Zoé. Zoé qui signifie simplement la vie éternelle. Très souvent, lorsque nous parlons de la vie éternelle, nous nous attendons à ce que nous montions au ciel, que nous voyons Dieu, les anges, la louange, avec les harpes et les trompettes célestes, c'est très bien. Mais la vie éternelle débute ici, sur terre, dès l'instant où nous acceptons Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur. Amen. Alors, pour préserver la vie Zoé, la vie de Dieu, la vie éternelle en nous, nous sommes censés vivre dans les instructions de Dieu. Vous verrez par exemple dans Jean 1, 4, qu'on ne va pas lire, je vais juste citer, et dans Matthieu 25, 46, d'ailleurs, à chaque fois que Christ parle de la vie éternelle, en fait, il veut parler de la vie de Dieu, la vie de Dieu en l'homme. Et Jean 17, le verset 3, je vais lire parce que moi j'ai le verset avec moi. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Amen. Donc ici, Christ parle, faisant la prière avant son ascension. Il dit que la vie éternelle, ce n'est pas d'abord la richesse. La vie éternelle, ce n'est pas d'abord la guérison physique. La vie éternelle, ce n'est pas d'abord l'aisance de ne plus avoir les souffrances sur terre parce qu'on est en Christ, mais la vie éternelle, c'est connaître. La vie éternelle, c'est connaître qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Très souvent, quand j'entends des personnes parler de leur conversion, on a parfois cette phase de « j'avais senti une chaleur qui m'a touchée, j'ai compris que c'était le Saint-Esprit ». Mes amis, sentir, ça ne va durer que quelques minutes. Pour fonder votre foi et rester ferme, vous devez connaître. Nous sommes tous appelés à connaître. Une fois que nous avons reçu le Saint-Esprit, on a ce devoir, on a cette responsabilité, on a cette obligation au fait de connaître les instructions de Dieu. Nous nous sommes engagés dans cette marche des découvertes pour connaître Dieu. Amen. Alors, connaître Dieu, ce n'est pas dans ce que l'on sent, connaître Dieu, c'est dans ce que l'on sait. Et ce que l'on sait de Dieu, on ne le devine pas. Ce que l'on sait de Dieu, on n'invente pas. Ce que l'on sait de Dieu, on ne l'imagine pas. Ce que l'on sait de Dieu, connaître Dieu, ça doit devenir, c'est basé sur des choses évidentes. Et il n'y a rien de plus évident que la parole de Dieu elle-même. Alors, lorsque nous nous tournons vers Dieu, et lorsque nous recevons le Saint-Esprit, lorsque nous avons la vie Zoé en nous, nous sommes appelés à connaître Dieu pour pouvoir préserver la vie de Dieu au-dedans de nous. Amen. Alors ça, c'est le premier dépôt ou la première définition du dépôt que je donne. Ce sont les instructions de Dieu. La deuxième définition, pour être plus large, le dépôt de Dieu en nous, c'est tout l'investissement de Dieu en nous. Oui, on peut passer. Le dépôt de Dieu en nous, c'est tout l'investissement de Dieu en nous, c'est l'investissement complet de Dieu en nous, partant des choses invisibles, donc de notre esprit, allant vers celles qui sont visibles, donc dans notre chair. Pour résumer, j'ai dit tout à l'heure que la deuxième définition, c'est l'investissement complet de Dieu en nous, dans notre esprit, passant par notre âme et résidant dans notre corps. Le dépôt de Dieu en nous, c'est l'investissement complet de Dieu, donc l'investissement complet de Dieu, tous les backgrounds que Dieu nous donne, qui dépose premièrement dans notre esprit, parce qu'en vérité, dans l'homme, c'est l'esprit. Nous sommes d'abord des êtres spirituels. Alors, le dépôt de Dieu en nous, c'est tout ce qu'il a déposé premièrement dans notre esprit, qui passe par notre âme et qui réside dans notre corps. Je vais prendre le temps de m'expliquer tout à l'heure. Alors, lorsque l'on reçoit Jésus comme Seigneur et Sauveur, notre esprit est vivifié. Notre homme spirituel reprend vie, parce que Christ lui-même est un esprit vivifiant, qui donne vie. Ainsi, puisque notre esprit est vivifié, notre âme, cette fois-ci, notre âme qui est comme cette assiette, qui contient tout notre vécu, tout ce qu'on a pu vivre avant Jésus. Le souvenir des blessures, le souvenir des traumatismes et de toutes ces choses qu'on a vécues bonnes ou mauvaises avant Jésus. Alors, lorsque notre esprit est renouvelé, il y a un grand travail qui doit se faire au niveau de notre âme. Et le travail qui s'effectue au niveau de notre âme va se manifester ensuite dans notre corps. C'est ainsi que le dépôt de Dieu en nous, son dépôt complet, commence dans notre esprit, passe par notre âme et ensuite vient résider dans notre corps. Ainsi, tout ce que vous êtes, tout ce qui fait que vous soyez vous et qu'aucune autre personne ne peut être vous, est un dépôt de Dieu. Partant par la couleur de votre peau, vos cheveux, votre physique, votre corps, tout ce que vous êtes est un dépôt que Dieu a mis en vous pour que vous puissiez porter sa nature, pour que vous puissiez porter la vie Zoé, la vie de Dieu au-dedans de vous. Alors, ça ne vaut pas la peine de penser que l'autre est meilleur que moi par rapport à ci ou à ça. Non, parce que Dieu n'a commis aucune erreur en vous créant tel que vous êtes. Vous êtes son œuvre parfaite. Lorsque Dieu vous voit, il se voit en vous. Alors, puisqu'il se voit en vous, aucun détail ne l'échappe. Aucun détail qu'il a déposé au-dedans de vous est une erreur. Non, parce que ce qu'il a déposé dans votre esprit est parfait, est excellent, et cela est censé marquer votre âme pour se manifester dans votre corps. Alors, j'ai déjà répondu à la deuxième question, qui est celle de savoir qui est les dépositeurs. Qui est Dieu? Alors, je vous invite à lire Jean 3, 27. Et là, la Bible nous dit, c'est Jean qui parle. Jean répondit, « Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. » En d'autres termes, vous, ce que vous possédez, ce que vous êtes, la somme de votre personne, vous a été donnée du ciel. Alors Jacques 1, 17 nous dit, « Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lesquels il n'y a ni changement ni variation. » Amen. Donc en d'autres termes, le dépôt de Dieu en vous est parfait. Le dépôt de Dieu en vous est excellent. Et comme je disais tout à l'heure, aucun détail de votre vie est une erreur. Non, même lorsqu'on peut avoir un handicap physique ou mental, dans le plan de Dieu pour votre destinée, ça doit vous servir. Paul parle lui-même de son handicap dans la Bible aussi. Il dit comment est-ce qu'il a prié pour qu'il en soit délivré, jusqu'à ce que Dieu lui dise que ma grâce te suffit. En d'autres termes, il devait servir dans cet état parce que ça contribuait à son ministère, ça contribuait à son appel. Et tout à l'heure, le frère a dit que c'est dans ma faiblesse que je suis fort. Donc, il n'y a aucun détail de votre existence qui échappe à Dieu. Son dépôt en vous est parfait. Et ça, juste ça, c'est déjà, une fois que vous prenez conscience de cela, il y a une telle libération, il y a une telle délivrance sur des complexes, d'infériorité, des choses comme ça, parce que l'auteur de votre existence est parfait, est excellent, et tout ce qu'il a fait en vous est parfait, est excellent. Alors, puisqu'il a déposé quelque chose d'excellent dans votre esprit, cela doit marquer votre âme et se manifester dans votre corps. Amen. Alors, puisque nous avons reçu un don parfait et excellent, puisque celui qui donne lui-même est Père des Lumières, parfait et excellent, qu'en est-il de celui qui reçoit? Donc de nous. Si nous avons reçu ce qui est parfait, si nous avons reçu ce qui est excellent, qu'en est-il de nous-mêmes, de l'état de notre cœur? Alors, celui qui reçoit, comme nous l'avons lu, on va beaucoup relire ce verset de Timothée 1, 14. Celui qui reçoit est chargé de garder. C'est ce que ce verset nous dit. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui est en nous. Celui qui reçoit est censé garder. Celui qui reçoit est censé préserver. Alors, nous savons tous, peut-être pas vous, mais moi en tout cas, nous sommes des personnes avec beaucoup de faiblesses. Nous sommes des personnes avec beaucoup d'imperfections, sans me contredire, parce que nous avons parfois la bonne volonté de manifester ce que Dieu a mis en nous, mais nous n'avons pas toujours la force de maintenir cela. Nous n'avons pas toujours la force de garder ce cap. Et tout ce que Dieu a mis en nous, ce n'est pas pour des raisons d'esthétique ou de complaisance, encore moins sujet d'orgueil, mais tout ce que Dieu a mis en nous, c'est dans un but que nous puissions le faire prospérer. Car 3 Jean 1, 2 nous dit, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. » Il veut que nous puissions prospérer et que nous soyons en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Et alors, je me suis posé la question de savoir pourquoi c'est on doit prospérer comme prospère l'état de notre âme. Mais tout à l'heure, j'ai dit que l'âme, c'était le siège de nos sentiments, de nos pensées, de ce qu'on a vécu antérieurement. Alors que c'est là que le Saint-Esprit vient travailler pour nous pouvoir, pour nous libérer de ce souvenir ancien, de telle sorte que nous ayons le souvenir, oui, mais pas forcément la douleur, au fait, qui va avec. L'âme, c'est le siège ou l'endroit où le Saint-Esprit vient travailler pour affiner notre personne, pour peaufiner notre personne. Alors, quand nous recevons le Saint-Esprit, notre âme prospère. Depuis la Genèse, Dieu attend voir de la prospérité en l'homme ou à travers l'homme dans la responsabilité qu'il lui a attribuée. Cependant, vous serez d'accord avec moi que depuis la Genèse, il s'avère que l'homme ne sait pas relever ce défi par sa propre force. Dieu a envoyé des prophètes pour exhorter, encourager. Dieu a envoyé des juges pour exhorter, encourager. Dieu a envoyé des rois pour exhorter, encourager, diriger le peuple selon la volonté de Dieu. Mais la somme de tout cela n'a rien donné au fait. Et c'est pour ça que Christ est venu. Alors, comme je disais tout à l'heure, notre âme, étant donné que c'est le siège de tout ce que... J'ai pas envie de dire de tout ce qui est mauvais, parce qu'il y a des bonnes choses dans notre âme aussi, mais c'est là qu'on a le background, au fait, de notre vie passée. Et c'est pour ça que même on dit qu'étant qu'enfant de Dieu, nous devons gagner les âmes à Christ. On ne gagne pas les esprits à Christ. Quand tu crois en Christ, le Saint-Esprit vient habiter en toi, ton esprit est ressuscité, reprend la vie. Cependant, il y a un process qui doit être entamé au niveau de ton âme. Et ce travail entamé au niveau de ton âme est censé se manifester ensuite dans ton corps. Alors, Paul lui-même va dire dans Romains chapitre 7, le verset 18 à 19, « Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. » J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Donc l'homme en lui-même, sans Dieu, ne peut pas accomplir parfaitement la volonté divine. L'homme lui-même, sans Dieu, ne peut pas vivre au fait la totalité de la volonté des dieux. On peut se poser la question de savoir, mais est-ce que Dieu a commis une erreur en remettant au-dedans de moi des dons aussi grands, aussi précieux pour qu'au final, je n'arrive pas à les manifester. On peut se poser la question, est-ce qu'il y a-t-il une contradiction entre ce que la parole de Dieu me dit quand je lis le psaume et que je vois David dire que je te remercie de ce que je suis une créature si merveilleuse, mais que moi, quand je regarde dans mon miroir, Seigneur, je ne suis pas très convaincue. Est-ce qu'il y a-t-il une erreur, y a-t-il un décalage, mais à quel niveau ça bloque? Mes frères et sœurs, je viens vous encourager pour vous dire que vous êtes des créatures merveilleuses, que nous sommes des créatures merveilleuses. Et ce n'est pas dans ce que l'on voit, ce n'est pas dans ce que l'on sent, mais c'est premièrement dans ce que l'on sait. Car Dieu, on le connaît. Dieu, ce n'est pas dans les sensations, c'est d'abord dans ce que l'on connaît. Alors, comme je disais tout à l'heure, c'est au niveau de notre âme que le Saint-Esprit vient travailler. Donc, le Saint-Esprit est la personne de Dieu qui vient habiter et travailler au-dedans de nous. Je vous invite à relire le même verset avec moi, cette fois-ci dans la version Semer, qui ajoute un élément qui m'a beaucoup marqué. 2 Timothée 1,14. La Bible dit « Garde intact ». Par le Saint-Esprit qui habite en nous, le bien précieux qui t'a été confié. Garde intact. En d'autres termes, tu as reçu ce qui est excellent, tu as reçu ce qui est parfait, garde-le intact. Et on a tous fait le bilan et on est arrivé à la conclusion selon laquelle que par nous-mêmes, nous ne sommes pas en mesure de garder intact le dépôt de Dieu en nous. Mais il nous dit que ce n'est pas quelque chose que nous allons accomplir tout seuls. Il précise que c'est avec l'aide de son esprit, c'est par l'Esprit Saint qui habite en nous que nous pouvons préserver ce dépôt de Dieu en nous. On a chanté tout à l'heure, on a chanté dans plusieurs chants, le Saint-Esprit avec nous, Saint-Esprit avec nous. Ok, j'aime beaucoup ces paroles et ça me parle à moi-même de façon très personnelle, mais le Saint-Esprit en nous vient préserver le dépôt de Dieu en nous intact. Pour ceux qui se sont convertis depuis un an, on lève la main, depuis un an, convertis depuis 5 ans, convertis depuis 10 ans maintenant, convertis depuis 20 ans, convertis depuis 30 ans, ah ouais, convertis depuis 40 ans, convertis depuis 50 ans, bon, ça va, hein, converti depuis 60 ans. Là, on a moins de mains. Depuis 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans, vous pensez que vous avez la même flamme qu'au départ? Vous pensez que, c'est pas à moi que vous devez répondre, vous serez sincère avec le Saint-Esprit dedans de vous, vous pensez que... Vous pensez que le dépôt de Dieu en vous est intact, le feu qui brûlait en vous lorsque vous avez remis votre vie au Seigneur brûle encore en vous aujourd'hui. En tout cas, si tel est le cas, gloire à Dieu. Vraiment, si tel est le cas, gloire à Dieu. Parce que ce n'est que par le Saint-Esprit qu'on arrive à préserver le dépôt de Dieu en nous. Toujours le même verset, 2 Timothée chapitre 1, le verset 14. Je parie qu'à la fin de cette prédication, on va tous mémoriser ceci. On t'a confié un beau trésor, garde-le avec l'aide de l'Esprit Saint qui habite en nous. On t'a confié un beau trésor. Le chemin va être long. Ça ne sera pas tout le temps plat. Tu ne vas pas ressentir la présence de Dieu tout le temps. Tu ne vas pas avoir des visions de Dieu tout le temps. Mais tu auras la Bible tout le temps. Il n'y a pas d'excuse pour se relâcher. Peut-être le jour où vous avez remis votre vie à Dieu, comme moi, c'était lors d'une croisade au milieu de plusieurs personnes, mais j'étais tellement touchée par la parole que j'ai pleuré de toutes les larmes de mon corps. Mais est-ce que à tous les cultes, moi, je pleure? Non. Est-ce que cela veut dire que je me suis relâchée? Non plus. En d'autres termes, c'est que pour garder le dépôt intact, on doit être suffisamment humble pour reconnaître que par nos propres forces, nous n'y arriverons pas. Nous n'y arrivons pas. Les défis des chrétiens, il y a 2000 ans, et les défis des chrétiens aujourd'hui, qui dit que ce sont les mêmes? Pas les mêmes? Les mêmes? Pas les mêmes? Qui s'abstient? Les défis sont les mêmes? Les défis ne sont pas les mêmes? J'aimerais tellement vous passer le micro pour que vous vous justifiez. Les défis des bases restent les mêmes. Il n'y a pas à se tromper, au fait. Il n'y a pas à se tromper dessus. Peut-être que dans la forme des tentations, dans la manière dont les choses se présentent, il y a un changement, mais de façon basico-basique, les défis restent les mêmes. Alors nous sommes appelés à préserver cela. Et comme je disais, ce que nous avons reçu est précieux. Celui de qui nous l'avons reçu est parfait. Alors, on doit s'assurer de la compatibilité entre le don et le contenant. On doit s'assurer maintenant de la compatibilité entre ce qui contient et ce qui est contenu. Si ce que nous contenons est parfait, excellent, il doit y avoir une certaine compatibilité entre le don qui vit en nous et nous-mêmes. Vous serez d'accord avec moi que je ne peux pas mettre de l'eau dans un passoir et attendre que celui-ci contienne l'eau. Vous serez encore plus d'accord que je ne peux pas mettre de l'huile chaude dans un bol en plastique. Mais on a tous déjà fait ça. Au moins une fois, on a déjà renversé de l'huile chaude dans un bol en plastique et tout a fondu. Donc il doit y avoir une certaine compatibilité, au fait, entre ce qui contient et ce qui est contenu. Sinon, on perd le tout. Voyons comment est-ce que la Bible le dit. Dans Matthieu 9, 17, la Bible nous dit... On ne met pas du vin nouveau dans des vieilles outres. On ne met pas du vin nouveau dans des vieilles outres. En d'autres termes, l'ancien homme qu'on était hier ne peut pas contenir le dépôt de Dieu aujourd'hui. L'ancien toi ne peut pas porter la puissance du Saint-Esprit aujourd'hui. L'ancien toi ne peut pas porter à lui seul la zoé de Dieu aujourd'hui. Alors, d'être suffisamment humble pour reconnaître qu'on a vraiment besoin du Saint-Esprit. Je poursuis le verset qui dit... ce même verset, on ne met pas non plus du vin nouveau dans des vieilles outres, autrement les outres se rompent et le vin se repent et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves. et le vin et les autres se conservent. Donc, en d'autres termes, la compatibilité qui doit résider entre ce qui est parfait, excellent, qui rime bien évidemment avec ce qui est nouveau, cette compatibilité que nous aussi, nous devons devenir nouveau. On doit devenir neuf. Neuf, pas dans la durée, mais neuf dans la qualité. On peut acheter des chaussures aujourd'hui, si vous ne les portez jamais, que vous les gardez, 20 ans après, vos chaussures seront encore neuves. Donc ce n'est pas dans la durée que l'on doit rester neuf, mais c'est plutôt dans la qualité. Alors, nous sommes nous aussi appelés à devenir neuf, ou du moins à rester, à demeurer neuf, peu importe le temps qui passe. Alors comment cela se fait-il? Pour rester neuf, ben, on a dit que c'est le Saint-Esprit qui doit agir, mais comment le Saint-Esprit le fait? Est-ce que vous avez une idée? Comment le Saint-Esprit fait pour vous garder, vous, neuf? Dans la communion?
Pour le vivre.
Pour le vivre. Il nous rappelle. Mais encore. Il nous donne le vouloir et faire, la parole, bien évidemment. C'est par sa parole. Alors, si le Saint-Esprit est un feu, comme descendu au jour de la Pentecôte sur les disciples, pour que le Saint-Esprit brille en nous, nous devons accepter que le Saint-Esprit brûle au-dedans de nous. Le Saint-Esprit ne peut briller que là où il peut brûler. Le Saint-Esprit ne peut briller que là où il peut consumer. Si le Saint-Esprit est un feu, il doit trouver au-dedans de nous une matière combustible. Pour ne pas dire comestible, il doit trouver au-dehors de nous une matière combustible qu'il devra consumer afin de pouvoir briller. Est-ce que nous sommes prêts à nous laisser embraser par le feu de l'Esprit?
Amen.
Alors nous devons être prêts à laisser le Saint-Esprit transformer notre caractère.
Amen.
Parce que lorsque l'œuvre du Saint-Esprit est parfaite en vous, il fortifie votre âme, restaure votre esprit, mais il doit se manifester dans votre corps. Et la seule manière pour que l'œuvre du Saint-Esprit se manifeste dans votre corps, c'est par votre caractère. Parce qu'il dit dans Galates chapitre 5, le verset 22, « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. » Alors, le neuf ne réside que dans du neuf, pouvant exprimer le neuf caractère du fruit de l'esprit. Le neuf, reçu de Dieu, ne peut résider que dans du neuf, nous, renouvelés, pouvant exprimer maintenant les neuf caractères du fruit de l'esprit. Car si vous pouvez compter avec moi dans Galates 5, 22, il y en a neuf. Neuf, 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 il y en a neuf. Alors, pour rester neuf, il faut exprimer les neuf caractères du Saint-Esprit. Vous serez d'accord avec moi que la tempérance, ce n'est pas toujours évident. Il y a des fois où on veut rester tempérant, mais tout autour de nous est en train de converger pour que nous ne le soyons pas. Il y a des fois où on veut exprimer l'amour, mais on se sent tellement en droit d'exprimer notre haine. Parfois, on veut vivre dans la paix, mais on se sent tellement menacé qu'on est obligé de réagir et briser la paix et rompre la paix. Mais les amis, j'aimerais me répéter que si nous voulons que le neuf réside en nous, nous devons être neufs et capables d'exprimer les neuf caractères du fruit de l'Esprit. En d'autres termes, si nous voulons que le Saint-Esprit puisse briller au-dedans de nous pour que ensuite, maintenant devenus disciples, nous arrivions à préserver le dépôt de Dieu en nous, nous devons accepter la transformation du caractère. C'est dans ça, au fait, que réside maintenant le défi du chrétien. La transformation du caractère. À quel pourcentage ressembles-tu à Christ? Et ça, c'est la transformation du caractère. Vous pouvez vous imaginer, dans le monde, il y a beaucoup d'hommes et tout, et il y a des chrétiens. Il y a un chrétien asiatique, il y a un chrétien congolais comme moi, il y a un chrétien français comme vous. Mais chacun a sa base culturelle qui est différente. Donc, chacun a son problème, chacun a sa manière de voir qui est issue de sa culture, de son pays, etc., etc. Mais Christ nous dit que si nous avons le même Saint-Esprit, nous devons arriver à développer le même caractère qui converge au final avec la personne de Christ. Alors, si nous voulons que le Saint-Esprit brille à travers nous, parce que la mission du croyant, c'est aussi de faire des disciples. Nous devons accepter que le Saint-Esprit brûle au-dedans de nous. Nous devons accepter que le Saint-Esprit brise notre caractère, que le Saint-Esprit pointe du doigt notre orgueil, que le Saint-Esprit réproche notre égoïsme. Nous devons accepter que le Saint-Esprit vienne bâtir au-dedans de nous pour que la personne de Christ soit pleinement manifestée. Et ça, c'est le travail de toute une vie. C'est vraiment le travail de toute une vie. C'est un combat. C'est un combat de tous les jours. Raison pour laquelle nous avons besoin du Saint-Esprit. Parce que tous les jours, vous serez défié dans l'un de ces caractères. Les amis, j'ai envie de dire, l'heure est grave. Mais à cela, ce que je veux plus que nous puissions retenir, que nous sommes appelés à demeurer, ou du moins à devenir neuf et le préserver. Et vous savez quelle est la signification biblique du chiffre 9? Le chiffre 9 veut dire 3 plus 3 plus 3 ou 3 fois 3 fois 3, c'est la puissance de la Trinité déployée. Et vous savez à quelle heure Christ nous a rendu neuf? À la 9e heure, pas à 9h. À la 9e heure, qui est équivalente de 15h. Et dans l'horloge, je ne sais pas si je dois dire hébraïque ou juive, en tout cas, ils ont des cadrans. Et il fallait qu'on atteigne la fin du troisième cadran, donc... J'ai envie de dire moi, dans ma compréhension des faits, dans le premier cadran, il fallait que Dieu aime. Dans le deuxième cadran, il fallait que le Saint-Esprit vienne agir pour pouvoir avoir la conception immaculée de Christ. Dans la première heure, je me répète, il fallait bien que Dieu puisse déployer son amour envers l'homme, comme il nous dit dans la parole. Dans le deuxième cadran de l'heure, dans le temps, il fallait que le Saint-Esprit vienne agir sur Marie afin que la promesse prenne vie. Et dans la fin du troisième cadran, donc à 15h à la 9e heure, Christ nous a rendus neuf. Et après la 9e heure, il y a un temps, ça continue. Maintenant, on a accès à la présence de Dieu. Maintenant, on a accès à sa vie. Maintenant, on a accès à sa Zoé. Et pour cela, on doit préserver ce qui est neuf en nous. On doit préserver la personne que nous sommes. Le chiffre 9, c'est la Trinité, la puissance de la Trinité divine déployée. Alors, j'aimerais vous inviter toujours dans cette idée de la transformation de la Zoé. Dans Actes, chapitre 11, les versets 26. Actes 11, 26, la Bible nous dit « Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'Église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. » « Ce fut à Antioche que, pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Ils ne se sont pas décidés de s'appeler eux-mêmes chrétiens. Non. Ce sont les autres qui ont vu pendant toute une année, comment est-ce qu'ils vivaient, comment est-ce qu'ils se comportaient, comment est-ce qu'ils ils vivaient en société, qu'ils ont décidé de s'appeler chrétiens, simplement pour dire comme Christ, au fait. Les amis, nous sommes dans un temps où, encore aujourd'hui, demain, nous commençons les défis guérison. Nous allons nous ouvrir aux autres. Nous allons aller chercher les autres de l'extérieur. Nous allons prier pour ceux qui ne connaissent pas Dieu. Mais pour cela, on ne pourra donner que ce qui est excellent en nous, si nous sommes en mesure de laisser le Saint-Esprit le faire avec nous. Alors, ce sont les autres qui ont appelé les disciples chrétiens, parce que la parole demeurait en eux. Et Éphésiens 6 nous dit que l'épée de l'Esprit, c'est quoi? La parole. Donc, nous sommes censés laisser la parole de Dieu venir agir par son esprit comme une épée pour transformer, travailler notre homme intérieur, afin que nous puissions devenir comme Christ. Et c'est sans aux autres d'attester que nous sommes comme Christ. Vous savez, à l'église, on est tous saints. Si Jésus devait descendre aujourd'hui, dans la manière dont je vous vois, mais c'est toute l'église qui sera enlevée. Parce qu'à l'église, nous avons notre 31, nous sommes habillés dans notre 31, nous louons avec les mains levées, nous nous agenouillons, parfois même nous nous répandons par terre, pleurant de toutes les larmes de notre corps pour adorer Dieu. Mais quand vous sortez, quand vous êtes dans votre travail, quand vous êtes dans votre famille, quand vous êtes dans votre école, quand vous êtes dans votre université, c'est là que l'on veut vous voir chrétien. Pas à l'église, pas dans nos quatre murs. Parce qu'en soi, Ecclesia, ce n'est pas les gens qui se réunissent dans les quatre murs. Ecclesia, ce sont des gens qui ont la capacité de se mettre à part pour ensuite réfléchir aux problèmes de la société et ensuite revenir dans la société pour répondre à ses besoins. Et nous, nous sommes l'Église de Christ. Nous sommes, nous aussi, appelés à nous mettre à part pour ensuite répondre aux problématiques de notre société actuelle. Mais pour cela, nous devons nous-mêmes être suffisamment métamorphosés. Vous imaginez si le monde doit se convertir en venant à l'Église, mais ça va nous prendre du temps. Christ ne va pas revenir demain alors. Alors que si chacun de nous, suffisamment transformé par le feu de l'Esprit, on irait à l'école, on prêcherait. Non pas parce qu'on prendrait la parole ou qu'on ouvrirait notre Bible, car la prédication, la plus grande prédication du prédicateur, ce n'est pas ce qu'il dit, mais c'est ce qu'il est. Si nous sommes suffisamment transformés, on n'aura même pas besoin de dire que Jésus est amour. Nous manifesterons tellement de l'amour que notre voisin qui se disait autrefois athée se dirait « Non, j'ai envie de connaître comment tu fais. » Celui qui vit dans la dépression et dans le stress constant, alors que vous êtes en train de faire le même travail, vous êtes dans les mêmes problèmes professionnels, il se demandera comment tu peux être en paix dans beaucoup d'épreuves comme ça. Et ça, c'est le Saint-Esprit qui le fait. Et ça, c'est le Saint-Esprit qui les donne. Les amis, nous sommes tous appelés à former un royaume de sacrificateurs. Le sacrificateur est celui qui sait amener le peuple vers Dieu. Alors si nous devons amener le peuple vers Dieu, nous devons être nous-mêmes suffisamment transformés et que nous prêchons pas d'abord par notre parole, mais par qui nous sommes. Et ce que nous sommes, c'est le Saint-Esprit qui le travaille, c'est le Saint-Esprit qui le définit. C'est vraiment la transformation du caractère. À un moment donné dans ma vie, je m'étais décidée, avant de dormir, de me dire, aujourd'hui, dans quoi est-ce que je me suis améliorée pour ressembler à Christ? Et c'est là que tu vois la fois où tu étais fâchée contre ta sœur, tu n'as pas voulu partager. Tous ces épisodes te reviennent à l'esprit et tu te dis, non, il y a encore du travail à faire ici, Saint-Esprit. Ne me laisse pas. Nous sommes vraiment appelés à vivre cette transformation dans notre caractère. Car c'est comme ça que nous pourrons impacter les autres. Car c'est ainsi que nous pouvons manifester la vie de Dieu en nous. Jérémie 23, 29 nous dit « Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, comme un marteau qui brise les rocs ?» Si la parole de Dieu est comme un feu ou la parole de Dieu est comme un marteau, dans les deux cas, nous sommes censés être transformés. Nul ne peut passer par le feu et rester le même, ni ne peut être brisé par le marteau et dire être le même, non. Et si la parole de Dieu doit se manifester comme un feu ou comme un marteau, nous sommes appelés à être transformés. Le travail dans le caractère, les pères des familles travaillent dans le caractère. Être chef ne veut pas dire être celui qui écrase, être chef c'est aussi être celui qui montre le modèle dans le caractère. Moi, j'ai appris à demander pardon parce que mon père m'a demandé pardon. Alors, je vous réinvite encore à lire une dernière fois avec moi, toujours ce même verset. On va même le réciter puisque je pense que là, on l'a mémorisé. 2 Timothée 1, 14, garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Je me dis, Paul aurait dû dire, Timothée, garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en toi. Pourquoi il a eu besoin de dire garde le Saint-Esprit par le Saint-Esprit, pardon, garde le dépôt de Dieu par le Saint-Esprit qui habite en nous? Parfois, garder le dépôt de Dieu nécessite que vous soyez dans le nous, que vous soyez dans la communion fraternelle. Que nous vivions dans la communion fraternelle. J'aime beaucoup le proverbe qui dit le fer aiguise le fer. Et il y a plein de versions même qui disent que l'homme devient meilleur au contact de son frère. Et nous sommes censés vraiment nous aiguiser, nous, les uns et les autres. Alors c'est normal que le voisin t'embête. Travaille ta patience. On veut que le Saint-Esprit travaille notre patience. Il mettra quelqu'un autour de nous pour travailler notre patience. Et c'est comme ça, au fait, ce qu'il travaille. C'est comme ça, parfois, on va se dire, mais vraiment, mon frère, il est encore dans la chair. Ma femme est encore trop charnelle. Non, il n'est pas trop charnel. Dieu veut que tu travailles, il travaille ton caractère, mais tu as besoin d'elle. On a besoin du Saint-Esprit pour grandir. Et ce n'est pas le Saint-Esprit qui nous visite, simplement. Ce n'est pas un Saint-Esprit qui nous touche, simplement. Mais c'est un Saint-Esprit qui habite, qui fait son siège en nous, qui vient habiter au-dedans de nous. Et ce n'est pas dans l'Ancien Testament, on voyait le Saint-Esprit saisir des hommes comme Samson pour accomplir la volonté de Dieu. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit habite en nous à temps plein. C'est à nous maintenant de décider, on le laisse s'exprimer ou pas. Et si vous ne le laissez pas s'exprimer, la Bible nous dit que vous finirez par l'éteindre. Et oui, on finirait par la tristesse d'ailleurs. J'aimerais conclure en disant ceci. Romains 8, 19 nous dit « Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils des dieux. » Ce n'est pas attendre que le fils des dieux se présente, pas la présentation, mais la révélation. On doit révéler ce qui est. On doit révéler ce qui est et qui était caché. Pour que nous puissions révéler pleinement la nature de Dieu au monde, nous devons laisser pleinement le Saint-Esprit s'exprimer à travers nous. J'aime bien 2 Corinthiens 2, 14 à 16 qui dit « Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher à Christ. » Amen. « Qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. » Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns une odeur de mort, donnons la mort, et aux autres une odeur de vie, donnons la vie. Et qui est suffisant pour ces choses? En d'autres termes, nous sommes nous la bonne odeur de Christ. En d'autres termes, nous répandons. L'odeur n'est pas censée. L'odeur se répand en fait. Alors c'est comme ça que nous sommes censés nous répandre aussi l'odeur de la connaissance de Christ, que ce soit parmi ceux qui vivent, donc les chrétiens, les croyants, ou parmi ceux qui périssent. Comment est-ce que nous allons ramener ceux qui périssent à la vie si nous ne nous exprimons pas cette bonne odeur? Nous sommes appelés à manifester Christ où que nous soyons. Raison pour laquelle moi je suis contre l'évangile qui dit que les chrétiens doivent rester à prier, rester médiocres dans son travail. Non, nous servons un Dieu excellent. Puisqu'il est excellent, cette excellence doit se manifester à toi en tout lieu. Tu ne dois pas être excellent en parler en langue. Il faut être excellent dans ton business, être excellent dans ton projet, être excellent dans ton foyer, être excellent dans tout ce que tu fais. Parce que dans chaque domaine de notre vie, nous manifestons ainsi la personne de Christ, pouvant ramener ce qui était dehors à la vie. Alors, le dépôt se préserve par la transformation du caractère au moyen de la parole de Dieu qui est l'épée de l'esprit. Et comme je disais tout à l'heure, la plus grande prédication du prédicateur, ce n'est pas ce qu'il dit, mais c'est ce qu'il fait. C'est ce qu'il est. Est-ce que ce matin, nous sommes prêts à laisser le Saint-Esprit brûler pour qu'il brille? Alors j'aimerais vous inviter à la prière. Je ne sais pas quelle intention de prière vous donner, mais j'aimerais spécifiquement que qu'un cœur soit sincère devant le Saint-Esprit pour lui dire « Brûle encore en moi. Brûle ce qui est mal en moi. Brûle ce qui m'éloigne du Père. Brûle ce qui m'éloigne de mes frères. Brûle, consume tout ce qui t'attriste en moi. Brûle afin de briller, car tu dis que nous sommes une ville située au-dessus d'une montagne. Nous sommes censés briller. » Mais pour que nous puissions briller fortement, tu dois brûler en nous. Au nom de Jésus, prions le Seigneur Dieu. Abba, nous venons te dire merci pour ce matin. Merci parce que je pense que tu nous as parlé. Mais nous venons encore reconnaissant que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Reconnaissant que nous avons tellement besoin de ton esprit. Reconnaissant que nous avons tellement besoin de toi. Alors nous te disons, Saint-Esprit, d'un même cœur, ce matin, viens brûler en nous. Viens brûler dans notre église. Viens brûler dans notre personne de façon individuelle. Viens brûler en nous de façon communautaire. Mais ne nous laisse pas garder un domaine auquel toi, tu n'as pas accès. Nous voulons pleinement nous exposer à ta personne. Viens transformer notre caractère. Viens transformer notre personne afin que Christ soit formé pleinement en nous. Nous voulons être pleinement tes sacrificateurs. Nous voulons être pleinement ceux qui savent apporter ta personne où qu'ils soient. Mais pour cela, viens travailler au-dedans de nous. Viens travailler au-dedans de nous. Tu nous appelles pendant ces 21 jours à répandre l'odeur de ta connaissance autour de nos frères et sœurs. Mais pour cela, viens brûler en nous, afin que ce moment soit impactant, afin que ce moment soit sincère. Nous sommes conscients que nous ne sommes pas capables par nous-mêmes, mais nous sommes aussi conscients qu'avec toi, nous vous arriverons à tout accomplir. Nous prions pour toutes ces choses. Père, tu sais que je rêve d'une église qui te reflète. Je rêve d'une église où chacun reconnaît les dons et les qualités que tu as déposés. Tu sais que mon plus grand fardeau, c'est que chacun de tes enfants puisse pleinement exprimer son potentiel, le dépôt que tu as mis en lui. Car de la même manière que nous sommes différents, de la même manière que les organes d'un corps sont différents les uns des autres, mais tu nous appelles à nous compléter. Car la différence n'est pas pour nous sujet à division, mais la différence est pour nous sujet à force. Alors je te prie, Seigneur Jésus, travaille dans le cœur de mes frères et sœurs, dans ceux qui ont écouté cette parole ce matin. Par mes faibles mots, je te prie, Saint-Esprit, d'enseigner encore dans leur cœur de façon plus parfaite et excellente. Avec mes faibles mots déposés aujourd'hui dans leurs oreilles, je te prie, Saint-Esprit, de graver dans leur esprit, de manifester dans leur âme et ensuite d'exprimer dans leur caractère, dans leur corps, ta personne et qui tu es. Nous prions pour toutes ces choses dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen.